Bonjour et bienvenue dans The Storyline, le podcast qui part à la rencontre des experts du storytelling et des créateurs de contenu. Je suis Noémie Kempf et deux fois par mois, j'invite un ou une experte du storytelling et du marketing pour décrypter les stratégies qui font le succès et la désirabilité des marques. Chaque épisode se concentre sur un cas d'usage concret ou une industrie spécifique. Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, on se plonge dans l'univers des livres avec Hélène Mérillon, fondatrice de YouBooks. Après des expériences dans la finance et l'énergie, Hélène s'est lancée il y a 10 ans à la conquête du secteur de l'édition, en s'inspirant des nouveaux modèles de distribution digitaux et illimités. Dans cet épisode, on discute ensemble du futur du secteur, sur lequel se côtoient désormais éditeurs et créateurs, et de la place que les marques peuvent prendre en utilisant les livres et leurs auteurs comme de véritables prolongements culturels de leur univers. Bonne écoute! Bonjour Hélène!
Bonjour Noémie!
Bienvenue dans The Storyline!
Merci de m'avoir invitée.
Avec grand plaisir. Aujourd'hui, on va pouvoir parler d'une thématique qui est un peu moins abordée que les autres dans le podcast, parce que du coup, nous sommes sur un format audio, mais on va parler du format écrit et en particulier de la lecture. Je suis ravie d'aborder ce sujet avec toi.
Ben merci. Écoute, tu sais, sur Next Story, tu peux aussi écouter des livres, donc ça tombe bien.
C'est vrai que les deux sont plutôt liés. Trop cool. Ben, du coup, justement, pour les gens qui ne te connaissent pas encore forcément, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ton parcours et de YouBooks? Qu'est-ce que c'est YouBooks, qui s'appelle désormais Next Story, si je ne m'abuse, ou qui en tout cas a intégré la structure Next Story?
Avec plaisir. Donc, écoute, moi, j'ai fondé YouBooks, donc qui a été rapproché récemment de Next Story, hein, qui est un modèle similaire en Suède, présent sur 10 marchés. Donc, YouBooks, c'est tout simplement une application qui permet de lire en illimité sur tous les formats. Donc, c'est la seule application dans laquelle aujourd'hui, en t'abonnant, tu peux accéder en fait à la fois aux journaux, à tous les magazines, mais aussi aux audiobooks, aux podcasts qu'on a sélectionnés, et également à tout ce qui est e-book, mais aussi BD. Donc c'est vraiment la lecture en illimité, modèle Netflix ou Spotify, mais adapté à la lecture. Voilà. Et donc, on a créé la société avec mes deux cofondateurs il y a 10 ans. On a revendu à Next Story, c'est tout frais, puisque c'était en octobre. Et Next Story, désormais Next Story France pour YouBooks, eh bien, c'est une application exactement sur le même modèle. Voilà.
Trop bien. Et qu'est-ce qui t'a amené à... Félicitations, déjà. Les félicitations sont de mise. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans ce projet, toi? Est-ce que tu avais déjà des projets entrepreneuriaux sous la ceinture? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer?
Alors moi, ce qui m'a donné envie de me lancer, c'est d'abord que je pense avoir vraiment l'ADN de l'entrepreneur vissé au corps. J'ai toujours aimé... créer, innover. J'ai toujours voulu aussi aller plus vers la création de business. Et pourtant, j'ai démarré dans la finance, donc j'étais pas du tout prédestinée à l'entrepreneuriat, puisque moi j'ai vécu 8 ans à Londres. J'ai commencé par travailler dans une banque américaine qui s'appelait Merrill Lynch. J'ai fait du M&A pendant quelques années, et puis en fait assez rapidement j'ai été happée par l'entrepreneuriat digital, puisque l'internet se crée. J'ai commencé par participer à une très belle aventure qui s'appelle Egg, qui était une des premières banques en ligne qui s'est lancée quasiment en même temps que le web en 98.
Ah ouais.
Et puis on a vraiment connu un super succès en Angleterre. On a créé une banque de plusieurs millions de clients en quelques années, fait un IPO d'£1 milliard. Donc, c'était une très belle aventure. Et ensuite, on s'est internationalisé. On a racheté The Bank en France et on a relancé The Bank sur la marque Egg. Voilà. Donc, les fondateurs d'Egg, pour moi, ils sont parmi les personnes que j'ai rencontrées dans ma carrière les plus innovantes, les plus disruptives et les plus orientées clients. Et donc, moi, ça m'a donné vraiment le virus de l'entrepreneuriat de les rencontrer. J'ai été ensuite débauchée par Charles Becbédé qui montait Poéo en France. À l'époque, c'était donc le concurrent d'EDF. Hein, c'était la libéralisation de l'énergie, du secteur énergétique en France. Et donc, on a créé un des premiers concurrents d'EDF. avec un modèle aussi très digital et très automatisé. Et moi, mon rôle, ça a été de travailler sur le lancement de l'offre B2C de Poyo. Et avec Charles et Frédéric, donc, qui étaient les cofondateurs de Poyo, ben, ça m'a semblé tout à fait faisable de créer moi-même ma boîte. Et je suis une fan de lecture, je suis une fan de modèles d'accès en illimité de nouvelles technologies. Et j'ai rencontré mes deux cofondateurs et on a créé l'appli. C'était une des premières applications dans l'App Store à l'époque, puisque, en fait, nous, on s'est appuyé sur le développement des smartphones en se disant que ça révolutionnait potentiellement l'expérience de lecture parce que ça permettait d'emporter avec soi toute une bibliothèque, de pouvoir y accéder à tout moment. Et je crois que, en fait, les audiobooks et les podcasts sont en train de faire une deuxième révolution, à mon sens, dans cette expérience de lecture. Et moi, je crois beaucoup, en effet, au fait qu'on va écouter de plus en plus de livres parce que ça permet de récupérer pas mal de petits moments dans la journée pour lire, pour déchiffrer
le
monde, comprendre mieux ce qui nous arrive aussi en ce moment, parfois.
Je ne suis pas sûre qu'on le comprenne, mais il y a de l'intention.
On peut essayer, en tout cas.
Trop cool. Bah, tu m'as donné des éléments de réponse, parce que j'allais dire de la finance à l'énergie, à la littérature, en tout cas au livre. C'était plus un grand écart qu'une transition linéaire. En revanche, donc, si je comprends bien, vraiment ce qui t'a amené sur ce marché et sur ce projet, c'est plutôt l'identification d'un modèle économique innovant et d'une opportunité de transformation des pratiques liées à la lecture qui était induite par donc, ce débarquement des smartphones, des modèles de streaming, des Spotify, Netflix et autres dont tu t'es inspiré.
Oui, tout à fait. Et puis aussi l'amour de la lecture et une vision que je partageais avec mon équipe tout entière qui était que grâce aux nouvelles technologies, on pouvait en fait, rendre la lecture plus accessible. Les livres, c'est quand même assez cher. Et ce modèle d'abonnement illimité, comme il l'a fait sur la musique ou sur les films, mais il permet vraiment de démocratiser voilà, ce bien culturel comme ça a été le cas pour les autres.
Et c'est intéressant ce sujet de démocratisation de la culture par la technologie, parce que du coup, ça implique plein de changements dans les modèles économiques des acteurs du secteur. Qu'est-ce que pour toi ça implique pour ce secteur culturel? Comment est-ce qu'il doit se réinventer ou peut se réinventer en fonction de la manière dont on voit la chose?
Alors, c'est le dernier secteur culturel qui vit sa révolution technologique et digitale. Et c'est encore une industrie qui est très orientée par l'offre et non par la demande encore. Et je pense que ce qu'ils vont vivre et ce qu'on va tous vivre dans les années qui viennent, c'est le passage de ce modèle d'offre à un modèle de demande. C'est-à-dire que c'est le lecteur demain qui va, bien entendu, décider ce qu'il a envie de lire, mais aussi peut-être écrire des contenus. Et donc, pour moi, la transformation, elle ne fait que commencer sur le secteur du livre aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même la place pour des éditeurs, pour des auteurs, pour des contenus de qualité. Il faut qu'une partie de la valeur économique reste entre les mains des créateurs en fait de contenu. Ça me semble très important. Donc moi, quand j'ai travaillé sur le modèle U-Books, qui était assez innovant puisque on était un des pionniers en Europe hein, à l'époque, il y avait un Espagnol et nous, on a créé ce modèle économique et de distribution qui est finalement une nouvelle forme de librairie. Et c'est vrai que pour la première fois, les éditeurs, en fait, allaient distribuer des livres en étant rémunérés en fonction de leur consommation, en fonction des pages lues. Et donc ça, c'était vraiment une révolution pour eux en termes de modèle. Mais je pense que ce qui est important là-dedans, c'est de toujours avoir un partage de la chaîne de valeur qui soit équitable. Et donc, nous, ce qu'on a fait chez U-Books et ce qu'on fait chez Nextory, parce que chez Nextory, la vision est la même, c'est démocratiser la culture et la lecture, mais ça dans une logique de développement durable, c'est-à-dire un modèle économique équilibré entre les différentes parties prenantes. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est développé avec les éditeurs partenaires. Aujourd'hui, on a 1500 éditeurs qui travaillent avec nous en France. On a 400 000 contenus disponibles. Et pourquoi est-ce qu'ils travaillent avec nous? Ben, ils travaillent avec nous parce que on leur restitue une partie de la valeur équitable. Et ils sont contents du modèle économique. Et aussi parce qu'on leur permet d'aller chercher des nouveaux publics. Et aujourd'hui, c'est clair que Maintenant, on place de plus en plus de temps sur son smartphone. Donc, les nouvelles générations, c'est vrai qu'elles vont moins en librairie. On pourrait craindre un peu une désaffection de la lecture chez les jeunes. En réalité, je pense que ils sont juste en train de transformer la manière dont ils consomment les livres, la lecture. Et je crois que ça devient audio, je crois que ça devient des modèles en illimité, que le futur passe par ces modèles-là. Et par contre, ce qu'il faut vraiment construire, c'est une chaîne de valeur durable pour que les créateurs puissent correctement vivre des contenus de qualité qu'ils créent, quoi. Ça me semble très, très important.
C'est intéressant. Et comment est-ce que tu vois, vous, est-ce que vous collaborez en direct avec ce que tu parlais d'éditeurs? Est-ce que vous collaborez en direct avec des créateurs de contenu aussi, des indépendants?
Oui, ça peut arriver. C'est-à-dire que si des créateurs de contenu indépendants souhaitent être diffusés sur la plateforme, on est tout à fait ouvert, puisque la plateforme Nextory, elle permet de diffuser ses contenus de façon quasi automatisée. Hein. On se crée un compte et puis ensuite, diffuser ses contenus. Il n'y a pas de frais, c'est très accessible aussi à tous les types de créateurs.
C'est trop bien justement ça, parce que je pose cette question aux invités quand ils ont la capacité de répondre, d'avoir une perspective là-dessus. Mais comment tu vois le futur de ce secteur du point de vue, j'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui pas une guéguerre, mais en tout cas une compétition entre les éditeurs et les médias traditionnels et les nouveaux créateurs de contenu qui arrivent et qui ont un accès direct à des audiences qu'ils arrivent à monétiser justement par le biais des contenus qu'ils vont créer. Donc un peu une désintermédiarisation entre le contenu et les consommateurs de ce contenu. Est-ce que tu vois une place pour les éditeurs et les médias à l'avenir?
Oui, pour moi, c'est évident que les plateformes de distribution, comme Nextory et puis évidemment ses concurrents, vont maîtriser en fait l'audience, les médias aussi, et donc vont maîtriser les données, la data qui permet en fait d'orienter aussi la demande et donc de mieux répondre en fait à la demande, de mieux répondre à la fois par des services mais aussi des contenus. Mais par contre, je pense que les éditeurs de contenu, les créateurs de contenu ont un savoir-faire, un métier qui est de créer des contenus de qualité. Il y a évidemment différents niveaux de qualité et moi ça me semble très important qu'on continue à éditorialiser, c'est-à-dire qu'il y ait une curation, mais qu'il y ait aussi un accompagnement en fait des auteurs, des créateurs pour améliorer encore la qualité ou les faire évoluer aussi dans leur façon de produire les contenus. Je pense qu'il peut y avoir des innovations aussi là-dessus. Les éditeurs sont à même d'investir dans ces innovations. C'est deux métiers différents. Moi, je crois que la distribution et la création sont deux métiers différents. Mais par contre, évidemment, avec la digitalisation, les lecteurs sont beaucoup plus proches de la création aujourd'hui. Donc, les éditeurs doivent se réinventer, c'est évident.
Oui, c'est parce que je me faisais cette réflexion il y a pas longtemps. À l'époque, tu disais, l'éditeur était une partie importante de la crédibilité de l'auteur. En tout cas, c'était important d'être publié via telle ou telle édition, notamment par des éditions qui ont pignon sur rue. Aujourd'hui, tu consommes pas un livre publié par un éditeur. Tu vas écouter un podcast d'un individu. Donc en effet, il y a cette notion d'individualité qui me paraît intéressante et qui vient peut-être un peu chambouler l'ordre établi, mais je suis d'accord avec toi, il y a des synergies à créer, notamment des collaborations et de l'apport d'expertise, d'expérience de la part des deux côtés.
Ouais, tu as complètement raison. Hein. Je pense que les marques aujourd'hui sont les marques des auteurs et des créateurs de contenu, pas celles des éditeurs. Enfin, il y a quelques marques évidemment connues dans l'édition, mais c'est surtout les auteurs, les marques. Et donc, de plus en plus, les auteurs, les grands auteurs, ont leur communauté. Sont autonomes en termes de communication digitale, ils sont capables en fait de toucher eux-mêmes leur communauté, et donc c'est vrai que ça challenge fortement les éditeurs qui restent quand même, je pense, assez forts sur l'édition papier, la distribution, physique, mais ils doivent se réinventer sur le digital. C'est évident, le digital et la data. Pour moi, c'est là où peut-être les plateformes de streaming peuvent apporter de la valeur ajoutée aussi à l'édition. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On n'a pas un simple partenariat de distribution avec nos éditeurs partenaires. On a aussi un partenariat de service, c'est-à-dire qu'on leur apporte des analyses de leurs audiences, des analyses de l'engagement des communautés, des auteurs et des communautés sur certains livres. Et donc, on leur apporte ces services, on commence à apporter de plus en plus des services à valeur ajoutée qui sont vraiment centrés sur la donnée et la connaissance des audiences des nouvelles générations notamment.
Oui, ce qui est un des nerfs de la guerre, clairement, pour réussir à comprendre et fidéliser son audience. C'est vraiment très intéressant.
Et c'est là où on est différent aussi de peut-être des grandes plateformes mondiales par rapport à ça. C'est que nous, on joue la carte du partenariat aussi d'apport de données et de services aux éditeurs, ce qui n'est pas du tout le cas de nos grands concurrents. Ils gardent toute la donnée pour eux. Voilà. Donc,
C'est vrai. C'est vrai, et je trouve. Alors bon, c'est un peu la reproche qu'on fait à toutes les plateformes, et je suis contente que tu m'amènes sur ce terrain. ce côté, justement, données propriétaires, voire parfois, on voit Facebook, c'est un peu le souffre-douleur de ce sujet-là, mais voire parfois qu'il exploite à des fins critiquées, voire contraires à la protection des données. Mais je vois, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que les plateformes plus agiles, plus petites, ou en tout cas qui ont été créées dans la foulée de cette mouvance de la génération des créateurs ces dernières années. Je pense notamment à Substack, que j'utilise pour The Storyline, pour la newsletter, sont très sur justement cette carte. Nous ne sommes pas uniquement des plateformes, nous sommes des coachs, et du coup lancent plein d'initiatives comme des bourses pour certains auteurs, des sessions de conseils one-to-one avec des auteurs reconnus, donc du coaching, beaucoup d'animations événementielles pour les faire monter en compétences. Et je trouve que ça, c'est vraiment une des clés de l'accompagnement des nouvelles générations de créateurs et même tout simplement des consommateurs, de se positionner comme un partenaire plutôt qu'un prestataire ou un vendeur de produits.
Ouais, tout à fait. Alors, par rapport aux auteurs et aux éditeurs, on apporte aussi, côté Nextory, la création de séries audio, parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus au goût du jour, dans la mesure où quand on consomme des contenus sur smartphone, on a souvent peu de temps. Donc, le format série est plutôt bien adapté pour la consommation sur smartphone. Et donc là, nous, on essaye d'accompagner justement nos partenaires créateurs sur la création, en fait, de formats de ce type-là. Donc, qui sont des interprétations d'œuvres écrites, mais adaptées justement pour pouvoir être lues ou consommées plus facilement sur un format série audio. Voilà.
Ouais.
Et ça, on a fait des tests. On a une dizaine de contenus originaux un peu sur ce format-là. Donc, et ça marche très bien.
Ok, eh ben, y a ce côté accompagnement dans la création de formats originaux. Et justement, j'ai l'impression, alors ça c'est une question, je pense que personne n'a la réponse ultime, sinon on serait riche, on serait ailleurs. Mais une question que je me pose, c'est au vu de cette facilité de créer du contenu, de le diffuser grâce à des plateformes comme la tienne, et en plus de monter en compétences et d'améliorer son rapport avec son audience au fur et à mesure grâce notamment à la data, comment aujourd'hui, dans une marée, un océan de contenu, tu différencies le tien, tu différencies tes créations en tant que soit éditeur, soit auteur.
Alors, c'est compliqué, mais je pense que la première réponse, c'est qu'est-ce que j'apporte à ma communauté ? Est-ce que j'ai une communauté de fans ? Qu'est-ce que j'apporte à ma communauté ? Et si la qualité, la qualité de ce que j'apporte et la variété de ce que j'apporte et la pertinence de ce que j'apporte est au rendez-vous, c'est comme ça qu'on se différencie. C'est qu'on fait quelque chose qui est pertinent pour une communauté de lecteurs ou d'auditeurs. Et tu le sais mieux que moi, puisque The Storyline, c'est ça que tu fais précisément. C'est de trouver un angle qui intéresse en fait, une communauté suffisamment importante. Les auteurs font exactement la même chose. Et ceux qui marchent, ils ont des vraies communautés engagées qui attendent la prochaine, la prochaine série, le prochain roman.
Complètement.
Et c'est ça que, par contre, n'ont pas les éditeurs.
Certes.
Donc, les éditeurs, oui, sont en risque d'être des intermédiaires dans ce sens-là. Par contre, les auteurs, eux, sont proches de leur communauté, comme tous les artistes, en fait.
Ouais, et ça, je suis contente que tu dis ça parce que souvent, que ce soit des auditeurs ou des marques avec lesquelles je suis amenée à travailler ou des créateurs, ont peur de se lancer et de produire leur propre contenu par peur en fait de ne pas savoir faire des choses nouvelles et innovantes. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée préconçue que pour être entendu ou pour être écouté ou suivi, il faut vraiment faire des choses très nouvelles. Et moi, ce que je dis, et je suis curieuse d'avoir ton opinion, toi qui vois beaucoup beaucoup de contenu passer, c'est que oui, c'est bien de faire des choses nouvelles et d'avoir des idées originales, mais tu peux aussi faire du contenu qui n'est pas du contenu qui vient radicalement changer le monde ou qui apporte une nouvelle facette au discours, tant que tu arrives à le faire, et ça rejoint ce que tu disais sur l'éditorialisation, tant que tu arrives à le faire avec tes mots, avec ta personnalité, avec ton identité. Et souvent, les communautés vont se fédérer autour de gens, pas forcément, enfin, en partie pour la qualité du contenu, mais donc pour le fond, mais aussi pour la forme et pour la manière dont ce contenu leur est transmis.
Ouais, tout à fait. Et puis je pense que pour compléter un peu ce que tu dis, si on a aussi un sens commun et qu'on s'inscrit dans un angle qui fait bouger les lignes, c'est finalement on apporte un témoignage. Et donc moi, ce que je pense, c'est que aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs, les moins de 40 en fait ont des thèmes sur lesquels ils ont des thèmes qui leur tiennent à cœur et qui font bouger les lignes de la société d'ailleurs. Donc et je trouve ça très intéressant parce que c'est une génération qui fait vraiment bouger les choses, je trouve. Et ces thèmes là je sais pas, je prends MeToo, je prends l'écologie, voilà, des c'est vraiment du sens, voilà, qu'ils partagent. Et dans ces angles là il y a des témoignages, et MeToo a donné la vie à plein de bouquins qui étaient des témoignages individuels, voilà, mais qui venaient apporter en fait quelque chose au débat, et dont l'objectif c'était de faire bouger les lignes sur ce sujet-là. Et donc ce que je trouve intéressant, c'est aussi la dynamique collective par rapport à des thèmes ou des objectifs communs, quoi. Et moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont en train de se passer sur cette génération-là aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment une culture commune avec voilà, des sujets sur lesquels on a envie de faire évoluer les choses. Et je pense que le contenu sert à ça aussi, faire évoluer les choses.
Complètement d'accord avec toi, et c'est rigolo ce que tu dis, parce que c'est un truc qui est vachement porté par The Storyline, qui est que vraiment aujourd'hui, la consommation devient un acte pas forcément militant, mais à minima chargé de sens ou d'une envie ou d'un prisme culturel. Et en fait, c'est rigolo. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu consommes pas forcément des produits ou des services, mais des lifestyles. Et finalement, c'est ce qui se représente dans la manière dont on consomme le contenu et dont on le produit aujourd'hui. C'est assez, c'est assez puissant ce qui est en train de se passer au final. Je suis super excitée, là, je suis.
Vraiment, je suis complètement d'accord. Je trouve ça très puissant. Moi, je suis très fière aussi de ce qui est en train de se passer, parce que je trouve que depuis 40 ans, les choses n'avaient pas tellement bougé dans la société. Et je trouve que, voilà, on est en train d'avancer, quoi. On fait avancer le débat. Et dans le bon sens, l'idée étant de transformer un peu le monde, transformer la société vers le mieux. Et ça vient vraiment de la culture
informationnelle,
digitale, informationnelle, de partage, voilà. Et ça, c'est une des grosses avancées, je trouve, du monde digital, finalement. Tu vois, c'est cette culture qui est en train de se créer,
autour de
qui est une belle culture.
Alors, qui est cool, mais alors tu m'offres une transition parfaite. Transformer le monde pour le meilleur, certes, mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de contenu très négatif, très. Enfin, aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même des dérives. On voit que typiquement, moi, je me souviens qu'un truc qui m'avait choqué il y a quelques années, c'est que il y avait des modérateurs qui s'étaient constitués aux États-Unis, partie prenante, pour porter plainte contre Facebook parce qu'ils avaient développé des traumatismes. Je ne sais plus comment on dit, des syndromes symptômes post-traumatiques ou un truc comme ça. Enfin, vraiment, ce qu'ont les vétérans qui ont vécu la guerre du Vietnam ou des choses comme ça, à force de voir en fait des vidéos choquantes et de devoir du coup les virer de la plateforme. Donc il y a ce côté du contenu vraiment traumatisant qui est modéré, qu'on ne voit pas, mais qui affecte quand même des gens et qui existe. Et il y a également ce côté, cette cette notion de polarisation de l'information dont on accuse beaucoup les plateformes aujourd'hui, qui est due à l'algorithme. Bon, tu nous en parleras un petit peu plus, j'imagine, mais il y a aussi beaucoup de mauvais.
Oui, alors oui, tout à fait. Il y a aussi beaucoup de désinformation. Donc, c'est vrai. Mais alors, ça, je trouve que ça... Ça donne encore plus d'importance au fait de pouvoir accéder finalement à un contenu éditorialisé. Donc, que ça soit Nextory ou d'autres plateformes de ce type-là, l'idée, c'est d'apporter aussi un choix de contenu qui permette de développer justement son information à partir d'un contenu diversifié et qui présente plusieurs points de vue. Et ça, c'est super important. C'est super important parce que ça permet de garder son esprit critique, ça permet de pouvoir relativiser les informations qu'on obtient sur les réseaux sociaux. Et donc, ça permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure, de mieux déchiffrer, de mieux décrypter ce qui se passe en accédant finalement à des contenus plus fouillés, quoi.
Oui.
Donc ça, c'est super important, à mon avis.
Est-ce que tu considères que les plateformes, alors peut-être les plateformes, pas forcément internationales, mais celles comme la vôtre le proposent, mais est-ce que c'est possible aujourd'hui de sortir de sa bulle et vraiment d'avoir un esprit critique et d'avoir un libre arbitre dans l'information qui nous est présentée ?
Pour moi, oui, complètement. Et justement parce qu'on accède aussi à un contenu très diversifié et vérifier donc soit des journaux et des magazines un peu professionnels mais avec différents points de vue donc qui permet de faire la synthèse et puis voilà on y prend ce qu'on veut, c'est finalement on choisit avec des livres qui ont été écrits par des auteurs qui ont pris le temps de faire des recherches qui sont peut-être des experts sur tel ou tel sujet et puis là aussi on peut faire sa synthèse, on peut faire son marché, on fait son choix et on se fait une opinion quoi.
Et c'est vrai que c'est là où les livres sont importants pour rebondir sur ce que tu viens de dire, sur ton idée. Parce qu'un livre n'est pas un post LinkedIn. Et du coup, ça demande en effet un travail et une démarche qui demande beaucoup plus de prise de recul. Et ce que j'aime beaucoup avec les livres, au final, c'est qu'ils nous permettent aussi de voyager un peu à travers le temps et de nous rendre compte que... Il y avait déjà des idées similaires à celles qu'on a aujourd'hui ou contraires à celles qu'on avait aujourd'hui il y a 10, 15, 20, 100, 500 ans. Et c'est une belle manière de prendre du recul sur l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
Et de votre côté, du coup, sur la plateforme, est-ce que vous avez un processus de sélection des contenus que vous proposez ? Enfin, tu disais que c'était une plateforme libre, mais est-ce que vous faites de la modération par rapport à certains types de contenus quand même ?
Oui, alors on a deux manières de recommander des contenus sur la plateforme Nextory. La première, c'est on a un algorithme de recommandation, qui est très utile pour proposer en fait des contenus pertinents de façon vraiment personnalisée. C'est-à-dire que nous, on a un algorithme qui est basé sur plusieurs critères et notamment, est-ce qu'on cherche quel type de sentiment on va chercher, est-ce qu'on a envie de contenus qui font peur, d'histoires d'amour ou de choses comme ça, mais aussi est-ce qu'on a envie d'un contenu court, facile à lire, ou au contraire on cherche de la littérature plus fouillée. Donc ça, c'est notre algorithme, donc ça permet vraiment et bientôt on va même pouvoir vraiment personnaliser toute l'expérience en fonction de cet algorithme. Mais on a aussi donc un responsable éditorial qui suggère des lectures autour de thèmes d'actualité ou justement de thèmes généraux pour que finalement on sorte de sa coquille un minimum. Parce que si on a finalement que des contenus qui nous ressemblent et qu'on ne lit que des contenus qui nous ressemblent, on va pas beaucoup évoluer. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Je trouve que c'est bien aussi de sortir un peu du cadre. Et c'est pour ça que je combine la recommandation humaine et la recommandation algorithmique. Parce que je pense que les deux sont importants.
Je suis tout à fait d'accord. Et il y a un article que j'ai sur lequel je suis tombée il y a quelques années, qui m'a vachement marquée et dont les propos restent avec moi, qui était titré « Les curateurs sont les nouveaux créateurs ». Et peut-être qu'en fait, c'est une manière de se positionner, que ce soit pour les individus ou pour les marques d'ailleurs, et tu me diras ce que tu en penses, mais dans le futur, pour se faire une place et rayonner auprès de leurs audiences, pas forcément de créer du contenu en permanence, mais plutôt de faire un effort de curation pour fournir à leurs audiences, à leurs clients, des informations de qualité et des sources de réflexion qui soient assez diversifiées et riches.
Ben ouais, ça, c'est un vrai métier. Hein, D'abord, il faut avoir une très très bonne connaissance des contenus auxquels on a accès. Donc, il faut une très grande culture et une très bonne compréhension en fait du contenu global présent sur la plateforme, mais aussi je pense qu'il faut se tenir au courant de l'actualité, il faut regarder un petit peu comment les thématiques sont suivies aussi sur internet et dans les médias, et puis proposer quelque chose de complémentaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet d'aller plus loin, quoi. C'est un beau métier. C'est en fait une aide à pouvoir surfer parmi les livres comme on surfe sur Internet, mais avec une capacité d'orienter les choses en fonction d'angles qui sont des angles qui intéressent les gens à ce moment-là. Donc, ça mêle actu et faut être à la fois réactif et être capable de prendre beaucoup de recul. Donc,
Oui, complètement. Et du coup, du fait de cette activité, mais aussi des modes de consommation du contenu aujourd'hui, est-ce que tu penses que les marques peuvent et doivent prendre un peu progressivement une place de médiateur culturel carrément sur leur marché ? Et vraiment s'inscrire dans cette notion culturelle.
Ce que je trouve, c'est que la culture, ou en tout cas une application de lecture comme Nextory, sont des services, des offres qui sont vraiment vectrices d'image, quoi. C'est très positif. Et je trouve que pour une marque, être capable d'apporter des services de ce type-là, culturels, à leurs clients, c'est très valorisant. Je pense que ça parle à beaucoup, beaucoup de gens, en fait, en France, de toutes les couches sociales. Enfin, la France, c'est pour ça que c'est un beau pays aussi, c'est que tout le monde aspire, en fait, à la culture et tout le monde a accès à la culture, en fait, dans notre pays. Donc, c'est quelque chose qui est, à mon avis, très valorisant pour les marques, qu'elles soient des marques de luxe ou pas, d'ailleurs. Et après, il faut qu'il y ait un storytelling qui fasse sens, je trouve. C'est-à-dire que, par exemple, Louis Vuitton a une maison d'édition. Ils éditent des guides de voyage parce que le storytelling est autour du voyage, normal, du bagage, etc. Donc ça, je trouve que ça a beaucoup de sens. Et nous, on propose une bibliothèque dans les hôtels Accor. Par exemple, on a un partenariat avec le groupe Accor et on fournit une bibliothèque digitale qui est accessible dans les hôtels pour ceux qui ont pris le service. Et ça, là aussi, ça a beaucoup de sens parce que finalement, qu'on soit en voyage pour le business ou pour les vacances, si on est en vacances, peut-être on est avec la famille, c'est quand même sympa d'avoir accès à des BD pour les enfants ou tout simplement prendre un magazine. Ça a du sens et quand on est en business, on a la presse, etc. Et pour l'hôtel, c'est génial parce que ça permet de digitaliser l'expérience d'accès à la presse, alors qu'avant ils devaient gérer tous ces titres de presse. C'est pas d'ailleurs très 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 bon pour l'environnement.
En effet, pas ouf. mais j'aime beaucoup cette. Je reviens sur cet exemple de Louis Vuitton et puis d'Accor Hôtel. Je trouve ça assez fascinant parce que dans ces cas-là, le livre devient en fait un prolongement culturel de l'identité et de l'univers, du positionnement de l'entreprise.
Ouais, c'est ça.
C'est puissant comme levier marketing.
Ce qui est beau avec les livres, par rapport à la musique ou à la vidéo, c'est on peut raconter n'importe quelle histoire avec des livres. C'est un contenu extrêmement riche parce que il est profond. Donc, tout à fait.
Très bel
et
objet.
On travaille avec d'autres marques. Hein. Enfin, aujourd'hui, Nextory a plusieurs partenaires B2B. On travaille avec SFR et avec Free, notamment. Donc là, c'est pareil, le service, il fait complètement sens par rapport au mobile, quoi. Donc, on est en mobilité, c'est normal qu'on ait envie d'accéder à des contenus, c'est normal qu'on veuille acheter des services de ce type-là auprès de son opérateur. Donc, ouais. Là aussi, ça a du sens.
Complètement. Trop bien. Bah, c'est une parfaite, encore une fois, transition vers le futur du livre. Pour toi, du coup, le futur de ce format, il ressemble à quoi ? Tu m'as parlé un peu de l'audio. Est-ce que tu as des pistes de projection pour l'avenir de la lecture et du livre ?
Oui, pour moi, l'avenir du livre, il est quand même résolument audio. Je pense que demain, on aura presque plus besoin d'écrire ou de lire sur des formats écrits. C'est ça que transforme l'audio aujourd'hui. Et je pense qu'on pourra vraiment complètement lire à n'importe quel moment de la journée où qu'on aille, etc. Et ça, grâce à ce format. Je pense qu'il y a quand même encore des innovations à mener pour que ce soit... que ça s'inscrive complètement dans le quotidien. Voilà. Et donc, notamment, les séries audio et le fait que ces formats switch que nous, on a créés avec nos contenus originaux, nos séries audio, le format s'adapte complètement, en fait, au contexte du lecteur. C'est-à-dire que on a créé des séries audio, mais on peut passer du texte à l'audio quand on veut et en fonction de ce qu'on a envie de faire, finalement. Et donc, moi, je pense que demain, le livre s'adaptera au lecteur en termes d'expérience, en fonction du contexte dans lequel il est. On peut passer de l'un à l'autre. Et d'ailleurs, de plus en plus, on est dans cette flexibilité de l'usage.
Ouais,
et donc, je pense que demain, le livre sera multi-usage de cette manière-là, quoi, forcément.
Ouais, on s'y projette plutôt bien.
Hein. Ben oui, j'espère.
On espère aussi. Bah, trop cool, merci beaucoup Hélène pour toutes ces idées et tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment chouette et ça me donne envie d'aller écrire des articles.
Ben, merci pour cet échange en tout cas.
Merci à toi.
Au revoir.
Salut. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Je trouve le parcours d'Hélène passionnant et sa manière d'aborder le sujet de la lecture et des livres intrigants. Ce qui m'a le plus intéressée, c'est cette réflexion sur les marques qui veulent se positionner sur un mode de consommation lié à la culture et au lifestyle. Pour ces dernières, les livres, et plus globalement la production de contenu écrit, peuvent être une arme incroyablement efficace. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à très vite dans The Storyline.